Jésus arriva un jour à une ville de ce pays nommée Sichar, ville toute voisine de l'héritage que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Accablé par la fatigue du voyage et n'en pouvant plus, Jésus s'était assis sur la margelle du puits. Il était environ midi. Survint pour puiser de l'eau une femme de la Samarie. Jésus lui adressa la parole. « Donne-moi à boire, » lui dit. Ses disciples, en ce moment, étaient allés dans l'intérieur de la ville pour chercher des provisions. « Comment se fait-il, » répondit cette femme, « que tu me demandes à boire, toi qui es juif, à moi qui suis samaritaine ? Les juifs n'ont point de commerce avec les samaritains. Si tu savais le don de Dieu, » reprit Jésus, « si tu connaissais quel est celui qui te dit « donne-moi à boire », peut-être est-ce plutôt toi-même qui lui eusse fait une telle demande, et alors il t'aurait donné de l'eau vive. Le Seigneur, répliqua-t-elle, tu n'as pas même un seau pour puiser, et le puits est profond. Où donc prends-tu l'eau vive? Es-tu quelqu'un de plus grand que notre père Jacob, lequel nous a légué ce puits, et qui a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Tout homme qui boit de l'eau que voici aura soif de nouveau, reprit Jésus. Mais quiconque boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus soif de toute l'éternité. Car cette eau, par moi donnée, deviendra en lui-même une source jaillissante en vie éternelle. Seigneur, repartit la femme, donne-moi donc de cette eau-là, de façon que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus ici pour puiser. Mesdames, messieurs, pourquoi lire les évangiles? Quel but doit viser le lecteur des évangiles? D'abord, avons-nous dit, un but pratique. Le lecteur avisé de l'évangile est, nous l'avons montré, celui qui le lit pour le mettre en pratique. À la question « Pourquoi lire les évangiles ?», donnons maintenant une seconde réponse, en visant un but christique, pour connaître le Christ. C'est dire, mesdames et messieurs, qu'il faut regarder les Saintes Écritures sous l'angle du Christ, sub specie Christi, et prendre au sérieux la distinction très nette établie depuis des siècles entre les deux grandes parties qui les composent, l'Ancien et le Nouveau Testament. Le mot « testament » est employé dans le langage courant pour désigner l'écrit dans lequel une personne, avant de mourir, consigne ses dernières volontés. Comme titre des deux parties de la Bible, il a une signification tout autre, celle d'alliance. Une alliance est un accord conclu entre deux parties, deux peuples par exemple, deux personnes. Dans la Bible, il s'agit d'alliances faites par Dieu avec certains hommes. D'après elle, Dieu, le créateur de toutes choses, s'est fait connaître à des hommes choisis par lui, et elle nous raconte l'histoire de ses révélations successives, qu'on résume en deux, la première appelée l'ancienne, et la seconde appelée la nouvelle. La première, faite avec le peuple juif, est limitée aux temps qui se sont écoulés depuis Abraham et Moïse jusqu'à la venue de Jésus-Christ. Les livres qui la racontent sont ceux de l'ancienne alliance, Ancien Testament. La seconde alliance, qui aux yeux des chrétiens est définitive, a été faite par l'entremise de Jésus-Christ et elle nous est racontée dans les livres de la nouvelle alliance, Nouveau Testament. Jésus-Christ lui-même s'est servi du mot « alliance ». En instituant la Sainte Cène, il a dit « cette coupe est la nouvelle alliance ». La conclusion s'impose. Dans la Bible, l'Ancien Testament a un caractère préparatoire, il est une longue introduction au Nouveau Testament, et celui-ci est le contenu essentiel de la Bible. C'est lui qu'il faudrait lire d'abord, et c'est la vie de Jésus-Christ qui est la partie la plus importante du recueil tout entier.